Pour les uns, c'est un village. Pour les autres, c'est la campagne à 20 minutes du centre-ville. Les uns évoquent sa population, originaire des Marolles, habituée aux luttes. Les autres vantent ses petites maisons qui ne coûtent que 700 000 euros. Les uns regrettent ses cafés populaires, les autres insistent sur son dynamisme commercial. Saint-Job est un quartier pas comme les autres.
Il y en a 52 ans que j'habite ici. Je connais tout le monde.
La montagne de Saint-Job, c'est un truc incroyable.
J'ai acheté ici parce que les maisons coûtaient rien, parce que personne n'en voulait.
Très petit Montmartre, hein. C'est un mouchoir de poche.
Il y avait chez Poldine, il y avait au Carlo, il y avait le Carlo.
Saint-Job risque d'être victime de son charme.
Ça va être un hub, ça va être un stopover first class pour Fauvet à tête noire.
Ému ?
Oui, très ému.
Je m'appelle Marc Ochinski et je vous invite à faire une promenade dans un lieu aux personnalités fortes et à la nature rebelle. Jean-Marc Vierset est à la création sonore. Bienvenue dans le podcast en immersion. Ici, c'est Saint-Job. Deuxième épisode, les combats du quartier.
Dans un tout autre ordre d'idées, le comité de protection et de rénovation de la montagne Saint-Job avait invité les habitants de ce quartier à descendre dans la rue cet après-midi pour expliquer.
En 1972, la RTB, comme on disait encore à l'époque, a consacré un documentaire signé Gérard Courbiot au quartier, et plus précisément à la lutte de ses habitants contre les projets de modernisation, c'est-à-dire de démolition.
Donc nous sommes ici au milieu du plateau à Val. Derrière vous, vous avez le bâtiment des Trimaux, donc hein, la cage à poules là-bas, hein, qui a été construit par Trimaux, mais il y avait un projet, donc on allait construire le même genre de bâtiment ici, en forme de croix. Quand Trimaux a fait faillite, évidemment, tout ce bazar a été abandonné.
On voit souvent Uccle comme une commune bourgeoise et sans histoire. C'est probablement un peu vrai, mais pas à Saint-Job. Peut-être parce qu'une partie des habitants du quartier descend des ouvriers et des petits artisans qui sont venus s'y installer au 19e siècle quand la construction du palais de justice les a chassés des Marolles. Les Maroliens, ce sont de fortes têtes. Les Saint-Jobois, c'est la même chose.
Pour la rénovation du quartier !
Et le film de 1972 se termine par la victoire des habitants. Les autorités refusent l'autorisation de démolir.
Je crois qu'il faut préserver tout ce que ce quartier a de pittoresque.
Alors, tout est bien qui finit bien ? Pas vraiment, car une zone de 8 hectares dans une commune aussi recherchée, ça devait forcément attirer les convoitises.
Oui, c'est Marc Ochinski pour le pote. Bonjour.
En 2002, un nouveau comité se crée pour lutter contre de nouveaux projets immobiliers. Son moteur, c'est Benoît Malice. Et l'histoire de la rencontre entre Benoît et le plateau à Veil, c'est l'histoire d'un coup de foudre.
On a été se promener au bout de la vieille rue du Moulin. On a vu ce que j'appelle un tunnel de verdure. On s'est dit, c'est incroyable, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de vis-à-vis avec des maisons. On se croirait un petit peu en campagne, limite dans les Ardennes. Mais il n'y avait que des potagers, des zones boisées et le chant des oiseaux.
Un jour, là, Benoît découvre dans le journal l'existence de nouveaux projets. 300 logements devraient être construits ici. Alors, il installe à l'entrée du plateau une petite affiche A4, demandant aux gens du quartier s'ils ont connaissance du projet ou souvenir des précédents.
De semaine en semaine, on commence à se constituer en un petit comité de d'abord 3-4 personnes, et puis 5-6 personnes. Et puis, après quelques mois, eh bien, on va former le comité de défense du plateau Avel.
Voilà. Petit à petit, le comité monte en puissance, il fait des contre-propositions, il va voir les bureaux chargés de réaliser des études des projets urbanistiques, et à chaque nouveau projet, le comité soulève des objections.
Quelque part, bon, on mettait un peu des bâtons dans les roues aussi en disant, voilà, mais il y a un problème là, il y a un problème technique là, donc ça permettait de gagner du temps.
Les habitants se mobilisent donc pour sauver leur espace vert. Difficile de ne pas penser au syndrome NIMBY, genre, vous pouvez construire tout ce que vous voulez, mais pas à côté de chez moi.
On a fait constater qu'il y avait plus de 50 logements vides sur Uccle et qui étaient à l'abandon. On a demandé qu'ils fassent d'abord un travail là-dessus. Et chaque fois, soit on ne nous répond pas, ou alors on nous dit « c'est trop cher ».
Finalement, le comité a obtenu le classement de 75% du plateau. Un résultat impressionnant par rapport au projet initial, mais 25% reste constructible. Et dans ces 25%, on trouve justement la parcelle de Luigi. Vous vous rappelez, le monsieur tellement fier de son jardin. Le propriétaire du terrain, c'est la commune. Je demande donc au bourgmestre, Boris Diliès, si Luigi a du souci à se faire pour ses haricots et ses figues.
clairement, il n'y aura pas de construction sur le plateau à Veil. Il y a encore cet aspect des 25% qui reste, mais de nouveau, on est sur un terrain propriété de la commune, donc là, la commune a la main, et ici, clairement, l'idée, c'est de ne rien construire sur Aveil.
Mais Benoît, lui, on ne la lui fait pas.
Rien n'est acquis. En tout cas, tant qu'il n'y a rien de signé, comme quoi les 25% restants sont classés, il faut rester prudent. Parce que la politique, c'est comme un bateau. Je veux dire, un jour il va à bâbord, un jour à tribord. Personne ne sait très bien ce que le capitaine va faire. Il navigue suivant la météo.
Aujourd'hui, c'est un autre souci qui plane sur le quartier. La gentrification, le remplacement de la population d'origine par des nouveaux venus, plus aisés. Sur la place Saint-Job, j'entre dans l'agence immobilière tenue par Olivier.
À Saint-Job, il y a énormément de Français qui sont dans le quartier. La puissance du lycée français, l'école du lycée français qui est vraiment pas loin, ou de l'école européenne qui est aussi à proximité. Donc le vieux Clouet essaie de s'accrocher, mais c'est compliqué.
Parce qu'a priori, ce qui fait le charme du quartier, je suppose que c'est aussi pour ça que les Français viennent, pas seulement pour le lycée ou l'école européenne, c'est aussi ce côté village. Or, s'il n'y a plus que des Français, ce sera un village de Français, plus un village Saint-Job.
Oui, c'est vrai. Mais bon, il y a toujours du bon Belge, hein, du bon Bruxellois qui est encore là.
Saint-Job attire donc les expats. Tout aurait commencé par un article dans JV, le magazine des Français de Bruxelles. Un article titré « Saint-Job, le petit Montmartre ».
Très, 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 très petit Montmartre. Hein. C'est un mouchoir de poche, mais...
Jean-François habite le quartier. Il a vu l'évolution du marché de l'immobilier. Il a vu les maisons qui se vendent parfois en un jour.
C'est l'argent qui pousse les gens dehors, quoi. Les gens qui n'ont pas eu la chance d'acheter leur maison quand elle est... C'était des maisons qui coûtaient, dans les années 80, ça coûtait, une maison ici, ça coûtait 500 000 francs belges. Hein. Maintenant, c'est 500 000 euros. Donc, ça a été multiplié donc par 40, quoi, le prix.
Qui vient ? Les riches expats ou au contraire les...
Non, justement, ce n'est pas spécialement des riches expats, ce sont des gens qui ont les moyens. Il y a pas mal de couples, de jeunes, de trentenaires, chaperonnés par maman, je les vois ici le dimanche, hein, les vieux. Ils viennent dire bonjour aux enfants, c'est la soixantaine fringante, un peu, tu sais, un peu smart comme ça, qui essaient de ne pas faire trop vieux, quoi, qui mettent des baskets sur des vélos. C'est des gens qui n'ont jamais roulé à vélo de leur vie, et maintenant ils découvrent le vélo. Et ils trouvent ça formidable, quoi. Ils trouvent ça formidable de trouver un truc populaire et qui ne soit pas parisien.
Sur la place, c'est un autre combat qui s'entame, celui des places de parking. Ça fait 10 ans qu'on parle de réaménager la place et les commerçants se demandent si leurs clients pourront toujours trouver à se garer.
Bonjour.
Oui.
J'ai rendez-vous avec Christophe Roulant, c'est le président de l'association des commerçants.
On ne connaît pas les projets dans le sens où il y a un bureau d'études qui a été nommé le bureau Arter et qui a fait plusieurs séances d'information, sa propre enquête publique pour écouter les divers intervenants. Hein. Et nous a paru assez orienté dans le sens où elle partait d'hypothèses, notamment sachant que sur l'avenue Prince de Ligne, il y a beaucoup de vélos qui circulent. La voyez-vous aménagée ? Avec une piste cyclable sur le trottoir, une piste cyclable à côté du trottoir, ou l'ensemble plat et les trois types de moyens de transport, le piéton, le cycliste et la voiture, qui cohabitent sur un espace commun. Mais la question est orientée, parce qu'il y a peu de cyclistes qui passent ici sur la Nuit Prince de Ligne.
Sa crainte, c'est de voir la clientèle motorisée partir à Waterloo et les commerces péricliter au grand dam des habitants du quartier, qui seraient alors à leur tour obligés de prendre leur voiture pour faire leurs emplettes. Vous vous en doutez, le bourgmestre a réponse à tout.
Uccle, c'est la deuxième commune la plus grande de la région bruxelloise, après la ville de Bruxelles. Et Saint-Job est la seule place d'Uccle. L'idée, ce n'est certainement pas de se dire, parce que ce serait suicidaire, de se dire, tiens, ben, demain, plus du tout de stationnement. Non, l'idée, ce n'est pas du tout cela. L'idée, c'est de travailler sur le fait d'avoir quelque chose qui soit plus esthétique, plus ambitieux, qui conserve du stationnement, mais qui donne aussi à Uccle la possibilité d'avoir une vraie place de vie, quelque chose qui soit pensé, quelque chose qui soit esthétique et qui respecte aussi le caractère de Saint-Job.
Les soupçons quand même qui planent derrière le bureau d'études Aster, c'est qu'ils ont quand même une idée derrière la tête.
Mais moi je ne suis pas choqué que dans ces secteurs-là, il y ait effectivement une part d'idéologie. Ça ne me choque pas du tout. Simplement, ce n'est pas eux qui vont décider.
Et qui va décider ? le bourgmestre propose un référendum ouvert à tous les habitants de la commune. Un bourgmestre rassurant, des commerçants pas forcément rassurés, des maisons dont les prix donnent le tournis, Saint-Job se demande à quoi demain le quartier ressemblera. Vous venez d'écouter Ici c'est Saint-Job, un podcast RTBF en immersion réalisé par Jean-Marc Vierset et Marc Chinsky. Dans le prochain épisode, on découvrira que, à Saint-Job, on sait faire la fête. Enfin, on savait la faire.